Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là pour cette nouvelle séance du cycle La création à l'œuvre, organisée par la Bibliothèque publique d'information, qui tente d'approcher chaque mois cet acte, qui est l'acte de création, en compagnie ce soir d'une cinéaste, Claire Denis, et je la remercie chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté de se prêter à cet entretien. Depuis Chocolat en 1988 jusqu'à White Material en 2010, Claire Denis a réalisé 11 longs métrages ainsi que 3 documentaires et plusieurs courts métrages. Elle ne cesse dans ses films à la narration essentiellement plastique d'une grande richesse sensorielle de tisser des liens avec les autres arts en empruntant en particulier à la danse, à la musique, à la littérature et aux arts plastiques. Abordant souvent la question de l'étranger, de l'exclu, du marginal, son cinéma fascine par son esthétique singulière et par son constant renouvellement formel. C'est Antoine Debecq qui va nous guider dans l'exploration de cette écriture cinématographique. Je vais lui donner la parole. Antoine Debecq, qui est historien et critique de cinéma, il a été en particulier rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, puis des Pages culturelles de Libération. Il a consacré plusieurs ouvrages au cinéma et écrit une biographie très remarquée récemment de Jean-Luc Godard. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Francine Figuère. Merci aussi à vous d'être si nombreux, qui a pris beaucoup de place. Et merci à Claire Denis d'être là pour... Donc parler de son cinéma et plus particulièrement du processus de création, plonger un peu dans ce chaudron où le film s'élabore. On va essayer de parler de cela, qui est toujours quelque chose évidemment qui peut paraître assez insaisissable et qui en même temps est quelque chose de très concret. Ce sont des processus, des procédés dont on peut parler, puisque ne serait-ce qu'en s'appuyant sur des extraits, donc comme on va faire un petit peu, on va montrer quatre petits bouts de film, quatre scènes du cinéma de Claire Denis, en s'appuyant aussi peut-être au début sur une sorte de parcours presque un peu biographique. Je voulais peut-être partir de là. Et d'abord, en commençant cependant par le dernier fait biographique, d'une certaine manière, c'est que tu reviens de Berlin, où donc tu as reçu un prix qui me semble-t-il assez important, le Great Berlin Art Prize. Et je voulais savoir...
Grosse coup.
Pour commencer, ce qui est une forme qui est évidente de reconnaissance internationale, comme ça, de ton travail, puisque ce n'est pas seulement à Berlin, mais notamment aux États-Unis et un peu partout dans le monde que ton travail est vu, reconnu. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, et comment est-ce que tu réagis à cela ?
Si je prends l'exemple de Berlin, j'ai pas compris tout de suite. Du reste, la communication avec l'Allemagne qui est si proche, quand on fait des films, elle est pas évidente. Il y a peu de communication. Enfin, moi, je connais les gens de la revue Revolver. C'est une jeune réalisateur allemand, mais pour autant. Quand les films français, enfin, en tout cas les films que je fais sortent en Allemagne, c'est plutôt confidentiellement ou grâce au forum. Donc j'étais un peu surprise et touchée quand j'ai compris ce que c'était, parce que après, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est presque une tradition d'aimer des films français, quoi. Il me semble que je fais plus partie d'un groupe que la critique américaine choisit et décide que c'est bien. En Allemagne, c'était plus touchant. Chaque pays Oui, peut-être que mes films parlent peu, peu de dialogue, peut-être sont plus faciles à faire voyager. J'en sais rien. Ou peut-être ils donnent une image de la France un peu différente. Mais je crois que c'était pas du tout quelque chose de projeté, quoi. Je me suis jamais projetée comme hors de mes propres frontières. Donc, c'est arrivé dès le premier film, en fait. Et ça aide. Ça aide à financer les films. Et je voudrais ajouter une toute petite chose par rapport à l'intitulé de ce programme. C'est la... Ce qui m'a... Deux choses m'ont vraiment poussé à accepter, c'est qu'au fond, moi, je ne sais pas ce que c'est que la création à l'œuvre. Et je me suis dit que, ne le sachant pas et ne le comprenant pas moi-même, ben, c'était peut-être assez joyeux de le dire. Et puis aussi parce que, d'une certaine façon, au même moment, je lisais le livre que tu as écrit sur Godard, qui parle tellement de ça que ça m'a exaltée de moi pas pouvoir en parler, quoi. Voilà.
Bon, essayons d'en parler par des
non,
biais.
Mais on peut attaquer Franco de Port. Hein.
Voilà. Moi, je me suis. C'est une question qu'on pourrait poser d'ailleurs à tout cinéaste. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, je dirais dans ton adolescence peut-être, ou dans ta jeunesse, où tu t'es dit « je serai cinéaste » Et qu'est-ce que ça veut dire de se dire ça? Est-ce qu'on peut se dire ça aussi clairement, aussi évidemment?
D'abord, je me suis dit « malheureusement, je ne serai jamais cinéaste, ça sera impossible ». Ça a commencé comme ça. Et c'est ce malheureusement qui m'a aidée. Cette impossibilité, cette certitude que j'avais que ça ne m'arriverait jamais. Ensuite, je pense qu'il y a quand même dans l'envie de faire des films l'inaptitude à la vie.
À faire autre chose.
Oui, mais une forme d'inaptitude quand même. Faire autre chose, c'est déjà. Inaptitude à faire autre chose, c'est déjà un choix. Alors que quand je dis inaptitude à la vie, c'est être bon à rien. Enfin, être un peu mal partout, quoi. Et finalement, dans les salles de cinéma, spectatrice. Il y a une telle reconnaissance, une telle... On est tellement pardonné d'être bon à rien quand on regarde un film que... Enfin, je dis « on » quand « je ». Mais je pense qu'au départ, c'était que des noms, que des refus, que des impossibilités. Alors, après, évidemment, force de dire non, ben, moins par moins, ça fait plus, quoi.
Et quels ont été ces moins? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es dit c'est pas si impossible que ça?
D'aller voir des films, parce que je crois que c'est quand même ce qu'il y a de plus rassurant. C'est à la fois écrasant quand on aime le cinéma, et en même temps c'est la chose la plus rassurante d'aimer un film. Même quand ça met la barre très haut, c'est si exaltant que ça donne l'impression qu'on en est. Je ne sais pas comment dire autrement. Et qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose. Même si on doit rater, parce que au final, le premier film, c'est quand même tellement casse-gueule que pas casse-gueule en se disant bah, « le film ne va pas marcher ». Mais surtout d'avoir tellement de regrets d'avoir exposé quelque chose qu'on pourrait mépriser finalement, qu'on va pas du tout aimer, que je vais pas du tout aimer forcément à la fin, mais le tenter. Et je crois que peut-être c'est là qu'il y a quelque chose qui est très physique, qui est presque sportif, de se dire bah, j'y arrive. Il faut le tenter pour savoir, quoi. C'est comme plonger, apprendre à nager, tout. Ça passe quand même par une épreuve du corps. Je crois que c'est pas que mental. Il y a quelque chose qui est comme un... Quand je dis physique, c'est parce que c'est comme si le cinéma s'adressait tellement au corps du spectateur que la réponse que je pouvais donner, elle passait aussi par le corps. Parce que moi, spectatrice, je suis pas touchée par les corps, comme on dit, « Ah, vous filmez les corps tellement bien !» Non, je dis les corps, c'est les corps des acteurs, des actrices, sont bouleversants. Donc on ne peut y répondre que physiquement, pas seulement en se disant « je vais faire des films », non. Je me souviens à une époque, un débat au Cahier sur ce qu'on pensait de la nouvelle vague que vous aviez invité, et je me souviens, je crois que j'avais dit un truc, peut-être par timidité, j'avais dit parce que peut-être il y avait aussi dans la nouvelle vague l'envie de coucher avec les metteurs en scène avaient envie de coucher avec leurs actrices, et c'était une boutade, et en même temps je pense qu'elle est...
Ça passe par le corps, en tout cas.
Oui, puis c'est un peu vrai quand même. Bon.
Donc tu as, d'une certaine manière, tu es devenu cinéaste dans une salle en voyant des films, enfin, mais tu es aussi devenu cinéaste en travaillant avec des cinéastes, en faisant l'IDEC aussi, une école
ben
de
ça,
cinéma.
Les
Est-ce
moins...
qu'on peut apprendre à faire du cinéma dans une école? Est-ce qu'on peut apprendre en voyant les autres en faire? Est-ce que...
Je crois qu'on apprend à faire des films en allant au cinéma. J'ai fait l'école de cinéma parce que j'avais... vraiment besoin, quoi. C'était pas comme la Fémis aujourd'hui, j'avais besoin de connexion. Il s'est trouvé que l'IDEC à ce moment-là c'était assez joyeusement bordélique, quoi. C'était Louis Daquin, dont tu parles du reste dans ton livre, qui nous laissait un peu. Il y avait une branche situationniste, une branche maoïste, enfin il y avait.
Il y avait qui d'autre à l'IDEC de ta génération, par exemple?
Romain Goupil, par exemple. Mais c'était surtout des discussions de politiques. Hein. Le cinéma était presque secondaire. Bien quand Jean Douchet venait nous parler de Truffaut et tout ça, on allait au bistrot, pas parce qu'on n'aimait pas discuter des films de Truffaut avec Douchet, mais parce que finalement, on était plus enfiévrés encore. Bon, donc l'IDEC, au fond, a joué un rôle de... Ça m'a décoincée, quoi. J'étais moins provinciale, moins... Je pouvais... C'est comme apprendre à conduire, quoi. Une fois qu'on a son permis de conduire, on se sent... Le jour où j'ai eu mon permis de conduire, je me suis dit, bon, bah, je pourrais toujours faire un truc dans la vie, quoi. Et ben, à l'IDEC, je me suis dit, ah, oh, bah oui, bah... Glenn nous apprenait à charger et décharger les caméras en nous donnant un peu des coups de pied. C'était un peu musclé comme ça. Je me dis, ouais, ça aussi, je pourrais. C'était toujours des épreuves un petit peu physiques. Hein. Et je ne peux pas dire que c'est à l'IDEC que j'ai appris à faire des films. J'ai appris à avoir moins peur de la vie, de prendre des décisions. Ça, je crois que cette IDEC telle que je l'ai vécue était très formatrice de... J'avais l'impression que le mot d'ordre à l'époque, c'était « Est-ce que tu es capable de faire ça, quoi ?» Par exemple, Glenn disait « Est-ce qu'on peut être à à LTC dans 20 minutes avant que ça ferme. Donc il avait une moto, donc on partait avec les bobines. Tout était un espèce de défi. Il travaillait avec Jacques Rivette à l'époque. Donc il y avait ce défi aussi de faire les films de Jacques Rivette. C'était quand même des plans séquences ou des scénarios qui s'écrivaient au jour le jour. Donc je sentais que... Est-ce que t'es cap ? Bon. Après, travailler avec des metteurs en scène, c'est arrivé un peu par hasard parce que je me suis retrouvée abandonnée à la sortie de l'IDEC. Quoi. J'avais pas... Et donc, les gens que j'y avais rencontrés m'ont proposé des boulots que j'ai acceptés. C'était stagiaire. Ouais. Mais en même temps, il y avait des gens que j'aimais énormément, comme Jacques Rivette. Et donc, ça tenait presque... de la dévotion pour moi de travailler avec eux. Il fallait que ça arrive. Parce que je pensais que si je n'avais pas travaillé avec certaines personnes, c'était comme initiatique, quoi. Mais en réalité, je pense que, comme toute expérience initiatique, c'est un peu une transe, on n'apprend rien. Enfin, je crois que je n'ai rien... On ne peut pas apprendre de quelqu'un. On peut apprendre. Il y a une jouissance d'être là, de participer à un film qui se fait. Mais apprendre la technique, apprendre à faire un film, non. Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu l'impression d'apprendre. J'ai eu l'impression de profiter, d'en jouir, Oui, d'être très heureuse de le faire. Parce que la vibration d'un film fait par quelqu'un dont on aime les films, c'est pas tellement d'apporter sa modeste contribution au travail, pas du tout, sa petite brique, non, je crois que c'est comme ressentir, oui, c'est une chose, oui, c'est ressentir les vibrations du cinéma, ça c'est quelque chose qu'on sent sur un plateau ou pas. Parce que ça m'est arrivé aussi de sentir aucune vibration.
Avec des gens que tu admirais aussi, pourtant, ou pas forcément.
Ou pas forcément. Mais je savais que ça se passerait pas, quoi, que ça serait cuit. C'est désolant.
Dans le film que tu as réalisé sur Rivette, Jacques Rivette le veilleur,
Il m'a ordonné de le faire, hein. Non, je précise que j'aurais jamais. Il a dit à Janine Bazin, il faut que ce soit clair. Et j'étais, je pouvais pas dire non, quoi.
Mais dans le film, qui est quand même beaucoup construit autour d'un troisième personnage qui est Danet, Serge Danet, on a l'impression qu'on peut quand même apprendre quelque chose par la conversation ou en tout cas par l'écoute. De Danet. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a compté ?
Beaucoup. Beaucoup. C'est un film tourné quand même vite. Hein. 5 jours plus la grande nuit, là, qui était la nuit du 15 août. C'était l'été. Donc, il y avait déjà les conditions maximum, comme aurait choisi Rivette pour faire un film. C'est-à-dire, on a choisi d'aller tourner dans des endroits qu'il avait lui-même choisi déjà dans ses films, et des lumières d'été avec des longues journées où on peut tourner longtemps. C'est comme déjà se mettre dans des conditions rivettiennes. Et avec une petite tricherie de départ, il m'avait dit que... Il avait toujours rêvé de faire un film sur un peintre et son modèle, mais il m'avait dit qu'il pensait qu'il ne le ferait pas parce que le peintre avec qui il avait envisagé de faire ce film était mort et que donc il ne se voyait pas demander à un acteur de faire semblant de peindre. En fait, Il l'a fait avec Michel Piccoli.
La Belle Noiseuse.
La Belle Noiseuse. Mais donc, à l'époque, il n'avait pas fait le film. Il y avait renoncé. Et donc, j'ai dit à Serge que... ce que j'aurais pas dû lui dire, puisque c'était un secret, au fond. Et donc, on a attaqué... C'était une façon d'attaquer le film et Jacques tout de suite, en l'emmenant voir les tableaux de ce peintre. Mmh. Et Jacques a compris que j'avais trahi un petit peu la confidence. Ce qui fait que, à la fin de la première journée de tournage, il parle avec Danet en disant « Bah oui, peut-être qu'il faut que je le fasse, ce film. » Et je crois que ça, c'était assez génial de filmer ce moment-là. De voir Jacques presque m'en vouloir un peu et en même temps se dire, bah oui, au fond, faisons ce film avant Jeanne d'Arc. Mmh, mmh.
Donc, pour Rivette, en tout cas... parler avec toi, avec Danet, ça,
moi,
ça a permis de créer quelque chose.
J'écoutais, ouais. et c'est Serge qui, toutes ces premières journées, qui a parlé. Jacques ne pouvait pas en placer une, du reste. Et il le titillait à propos d'un projet peintre et modèle, en essayant de l'aborder. Et moi, j'écoutais, et je voyais les Jacques se raidir un peu, puis finalement sourire et s'abandonner et retrouver, presque finalement, retrouver son sujet, quoi, lui, son modèle. Et je crois que c'est... Pour moi, ça suffisait. Je me disais, bon, bah, même si demain on ne peut pas tourner, si quoi que ce soit arrive, le plus gros est fait. Puis après, il y avait la nuit, et ça, c'était bien aussi, parce que c'était un moment où... C'est la fin et Serge était fatigué. Et c'est Jacques qui a pratiquement monologué. Je crois que, en plus, il parle du temps. Je crois que j'ai appris beaucoup cette nuit-là parce que j'ai vraiment senti la nuit passer, quoi. Minute après minute, il y a eu comme une pulsion du temps qu'on sent dans les films de Jacques Rivette, mais qu'il a réussi à nous faire vivre.
Donc, quand tu tournes cet été-là avec Rivette, tu as déjà réalisé un ou deux films,
Chocolat et un documentaire qui s'appelle Man No Run. Je crois que c'est parce que Jacques avait vu Man No Run. Enfin, oui, il l'avait vu, parce que à l'époque, c'était une époque où Il venait dans la salle. Jusqu'à il y a très peu de temps, du reste, il venait dans la salle de montage voir le premier montage pour faire ses crédits. Voilà. Donc, ouais, j'avais.
Et au moment où tu fais Chocolat, le premier long métrage, est-ce qu'il y a un phénomène de, je dirais, c'est un film qui est difficile à monter, je dirais presque financièrement, enfin c'est difficile à faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut presque dégoûter de faire du cinéma? Ou est-ce que, quand on a un premier film comme ça, très compliqué à... Ou alors est-ce que l'envie de le faire, ça bouscule tout et ça dépasse tout?
Je crois que j'avais envie de faire un film... Et si ça n'avait pas été Chocolat, ça aurait été un autre. Alors, à la limite, que ce soit plus dur de convaincre des producteurs d'aller faire un film loin, d'avoir des frais de billets d'avion, de séjour et tout, avec un acteur principal pas connu. Enfin, je trouvais que ça valait le coup, quoi. C'était bien. Et puis du coup, quand c'est comme ça, ça met un peu d'exaltation. Parce que je pense que c'est tellement dur, les étapes qui précèdent, enfin, avant que le film se cristallise, c'est-à-dire avant que le film trouve son producteur et son budget. Enfin, parce que quand même, c'est ça, La jonction, elle se fait là, quoi, c'est avec l'argent. Donc du coup, que ce soit un peu impossible, c'est bien parce que ça permet de... Les jours où ça va mal et où on y croit, où je croyais plus du tout au projet, ben, y avait une forme d'exaltation qui restait. Et donc, je pense que... Oui, Non, je ne me suis jamais découragée. Et puis, je venais de travailler... Quand j'ai commencé à chercher l'argent pour Chocolat, je venais de travailler avec Wenders. Et je crois qu'il m'a peut-être donné une approche très différente de ce que j'avais vu jusque-là. Servim, pour moi, me montrait qu'on pouvait aborder le film sans être prêt du tout, sans avoir tout l'argent, en contrebandier un petit peu, enfin avec une forme de j'allais dire à l'arrache, mais c'est pas tout à fait ça, c'est en filoutant un peu, quoi. Je voyais bien qu'il y avait il avait des doutes, mais que il aurait pas pu faire le film s'il n'avait pas eu ses doutes, quoi. C'est ça qui l'exaltait aussi. Et j'ai compris que il fallait vraiment cerner le problème du budget quand on fait un film. Chose qu'en France, on ne dit pas souvent, quoi. Parce qu'il y a l'avance sur recette et tout, bien sûr, c'est ça, c'est formidable. Mais parler d'argent en France aussi, c'est un peu difficile. Alors que Vim en parlait tout le temps. Et ça, ça va coûter tant, et ça, et ça. Et même à un moment, il savait combien on avait de défraiements, et il nous confisquait nos défraiements pour gagner une journée de tournage. Enfin, donc ce rapport si franc entre son film et l'argent, puis je connaissais toute l'histoire du... Enfin, l'arrêt de Ahmed pour aller faire à la fois... Nix Movie, et puis l'état des choses. Donc cette incroyable intelligence qu'avait Vim avec son budget, de comprendre comment il fallait attaquer le film quand on n'avait pas tout l'argent, je crois que ça m'a appris énormément.
Il y a quelque chose que tu disais là, que tu as appris, Wenders, c'est de ne pas être absolument prêt quand on commence un film.
Ouais.
Ça me semble quelque chose de très important, notamment pour un premier film, parce que ce qu'on peut parfois souvent reprocher aux premiers films, c'est qu'ils sont presque complètement bouclés, blindés. Ils sont d'une certaine manière faits avant même d'être réalisés, quoi. Alors que on a l'impression que toi... seulement pour le premier, mais pour tous les films, il y a cette idée de laisser encore quelque chose qui n'est pas fermé, qui est ouvert, qui n'est pas fini, et qui se finira peut-être sur le moment où on fait le film.
C'est-à-dire, c'est un double... C'est comme... si j'étais psychanalyste, je pourrais expliquer. Il y a à la fois le désir de d'avoir une valise bien remplie, en ayant tout prévu, les chaussures d'été, les bottes fourrées, etc. Et que tout soit bien carré pour ne rien risquer. Mais d'un autre côté, je dirais que ça m'est insupportable. Il faut que ce soit pas tout à fait prêt pour que j'ai la force de m'arracher à la pesanteur de me préparer, quoi. Parce que dans l'idée de se préparer ou de finir, de boucler, c'est très bien. On dit boucler une valise, boucler un scénario. Tout d'un coup, ça apporte une très très grande fragilité en fin de compte, parce que ce bouclage, enfin, dans les journaux aussi on dit le bouclage, ça veut dire qu'on n'a plus de raison d'être là, c'est fini. Et que donc la valise peut partir toute seule, le journal peut être distribué dans le kiosque, et que donc on n'existe plus tellement comme au cœur du projet. Je pense que inconsciemment, de ne pas savoir boucler, de ne pas bien finir, c'est inconsciemment pour ne pas lâcher, quoi, je crois. Je ne suis pas du tout forte en psychanalyse, mais je crois qu'il y a une part de ça, quoi. Je pense que c'est rassurant de se dire « Oh, ben, j'ai encore la nuit pour améliorer ça, j'ai encore... Oh, ben là, il y aura un week-end parce que je pourrais aller repérer ça. » Toujours reporter au lendemain, en fait, ça, je crois que ça participe aussi un petit peu. Enfin, pas trop quand même, mais... Pour moi, cette peur de ne pas être prête m'aide beaucoup parce que du coup, j'ai pas peur du film, mine de rien. Parce que ça masque l'autre peur qui est beaucoup plus grave, c'est de se dire « je vais faire un film de merde ». Ça, c'est vraiment effrayant.
Puis qu'il n'y aura rien à faire, ce sera...
Être pas prêt, c'est juste une question de dormir un peu moins, de mettre le réveil plus tôt, d'avoir des brûlures d'estomac, de prendre du guronzan, enfin ouais, sous tous les trucs.
Il y a aussi autre chose qui commence très vite, des chocolats, c'est le... On a l'impression que tu travailles très souvent avec les mêmes personnes et sur Chocolat, il y a Agnès Godard qui est là au cadre déjà, qui va suivre tous les films. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui aide de s'entourer d'une sorte d'équipe, de troupe, ça, parce que ça marche chez toi aussi bien pour Agnès Godard ou pour le Jean-Paul Fargeau sur l'écriture, les Tindersticks sur la musique, pas mal d'acteurs aussi qu'on retrouve comme ça, comme Grégoire Collin ou Alec Descasse, qui reviennent comme ça de film en film.
Il y a une chose qui est sûre, je suis sûre d'être sincère et assez franche en disant que je ne me voyais pas comme ça avant, c'est-à-dire je ne me voyais pas une personne qui aurait une troupe. Quoi. L'idée de la troupe me fait horreur. Donc, je n'avais pas envisagé jamais que j'en aurais une. Comme je te disais tout à l'heure que je préférais la chambre d'hôtel à l'appartement, le provisoire me convient mieux. Par contre, ces gens-là me plaisent. Et j'ai envie de les revoir, quoi, voilà. Que ce soit les acteurs, ou je me sens bien, ou Agnès, ou Jean-Paul, ou je me sens bien avec eux. Et ça me permet de pouvoir m'exposer, voilà. Mais ils savent aussi que je suis pas familiale, ni... Enfin, j'aime pas les groupes, quoi. Donc, quand le film est fini, je ne suis pas du tout groupe, quoi. Voilà, pas du tout, non. Non, mais je le dis parce qu'il y a des gens pour qui, je pense, dans la création, c'est important
d'avoir une troupe. Comme ça, en groupe,
voilà.
Quoi.
Et c'est pas méprisant de ma part, parce que je sais que c'est des films que j'aime beaucoup. Par ailleurs, mais moi, je sais, ça me ferait peur. Ça m'aurait fait peur au départ, voilà.
Et en même temps, c'est quoi? C'est des fidélités? C'est quoi? C'est des...
Oh non, je ne suis pas du tout fidèle. C'est que... Non, non, mais sincèrement, il n'y a pas de fidélité. C'est... J'ai envie de recommencer. C'était bien, alors pourquoi pas recommencer, quoi? Il y a quelque chose qui peut se... Comment dire, essayer autrement. On a essayé comme ça, avec Agnès, bon ben on a fait tout un film en Super 16 à l'épaule, entièrement, jamais posé, aux 50, et voilà, ben alors pourquoi pas essayer aux 40 et juste tout le temps sur pied. Enfin, Il y a quelque chose, ça fait partie des petits travaux d'aborder le film pas trop comme un film, une création, une œuvre d'art, mais quelque chose qui va se résoudre concrètement, amicalement ou en s'engueulant, mais par petits morceaux, quoi. Parce qu'aborder le film en bloc, c'est-à-dire, alors on va choisir une équipe, des acteurs et tout ça, je crois que c'est un peu antinomique avec l'idée que je me fais du film, qui doit quand même rester préhensible, quoi, s'il est complètement nouveau, inconnu. Non, il faut que je le tienne un peu quand même.
Il y a parfois aussi un phénomène presque inverse, c'est l'intérêt pour une rencontre de quelqu'un que avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu ne retravailleras pas forcément. Il y a eu Emmanuel Bernheim sur Vendredi soir, Marine Diaye sur White Material, ou même Mathilde Monnier.
Oui.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui te donne envie de créer, c'est de rencontrer quelqu'un que tu connais pas, a priori.
Mais je crois que la première personne qui m'a fait prendre conscience de cette possibilité, c'est Béatrice Dalle, en fait. Qui, apprenant...
C'est sur J'ai pas sommeil.
Ouais, apprenant que l'actrice auquel j'avais pensé s'était désistée à la dernière minute, m'a téléphoné, m'a dit « Oh, ben, je sais bien que je le ressemble pas du tout, mais moi, je veux bien. » Et c'était tellement... elle a tellement pas besoin de moi, c'était tellement amical, je la connaissais pas du tout, c'était tellement exaltant aussi et audacieux que j'ai préféré, j'ai instantanément senti que j'avais eu de la chance que l'actrice prévue se désiste, et du coup ça m'a énormément donné envie que ça se reproduise. Pareil avec Isabelle Huppert, mais je crois que la rencontre avec Emmanuel ou Marie, c'est peut-être un peu différent, parce que c'est des livres... je suis leur lectrice. Et... avec Emmanuel, on avait un projet de film et un jour, je lui ai dit, on travaillait sur un scénario qu'on devait rafistoler, qui n'était même pas un scénario original de nous. Et un jour, je lui ai dit, j'en peux plus, elle me dit, moi non plus. Et je lui ai dit, moi je voudrais tellement... C'était un film d'époque, avec beaucoup de personnages. Je lui ai dit, moi j'en ai tellement marre que je rêve de deux personnes dans une bagnole et c'est tout. Et elle me dit, mais c'est trop, trop rigolo que tu me dises ça. Pourquoi tu me dis ça? Je dis, ben, j'en peux pas plus des carrosses, des forêts, des châteaux. Je voudrais l'inverse. Et elle me dit, mais moi, je suis en train d'écrire un livre, c'est deux personnes dans une bagnole, la nuit. Moi, je lui dis, oh, c'est idéal. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. C'est pas comme si j'avais été lui dire, Emmanuel, voulez-vous écrire un scénario? Elle m'a sauvée, quoi. Et Marie, je suis sa lectrice depuis le premier livre, parce que c'est les titres de ses livres déjà m'attiraient. Et au moment où il y a eu l'invitation d'Isabelle de faire un film en Afrique qui aurait peut-être été l'adaptation d'un livre qu'Isabelle Huppert aimait beaucoup, qui est un roman de Doris Lessing. son premier roman, qui en anglais s'appelle The Grass is Singing, et en français c'est un titre magnifique, c'est Vaincu par la brousse. J'ai dit à Isabelle Huppert, moi, je ne peux pas faire cette adaptation, parce que ça se passe en Afrique du Sud, à une époque, au moment où l'apartheid est déclaré, enfin, bref, je ne peux pas. Si j'allais en Afrique du Sud aujourd'hui, ça ne serait pas pour faire un film qui se passe dans les années 40, ça serait insoutenable, et sûrement pour l'équipe, pour toi et tout ça. Mais le titre français, Vaincu par la brousse, m'a donné une direction au fond. Et c'était pendant le début du rapatriement des planteurs français de la Côte d'Ivoire en 2004. Et du coup, j'ai demandé à Marie si ça l'a... Je me disais, voilà, peut-être ça serait génial, là, à ce moment-là, de lui demander de... J'avais jamais fait ça, quoi, inviter quelqu'un comme ça.
Donc la solliciter, là.
Oui.
C'est une sorte de... presque une commande.
Non, j'avais envie de passer du temps avec elle, parce qu'en fait, la commande, c'était Vaincu par la brousse, quoi, au fond.
Ouais.
Et on peut dire que le film, c'est ça. Et les coupures de presse sur la Côte d'Ivoire, j'avais même la scène à la télé où on voit l'hélicoptère de l'armée française qui dit « Allez, évacuation immédiate, tout ça, voilà. » Donc je me suis dit, je veux dire, la commande, on l'avait. Mmh. On avait un producteur aussi, donc je me suis dit, il faut... Voilà, on va travailler ensemble. C'était ça qui était... exaltant, c'était... On est si différentes, si loin l'une de l'autre, quoi. Elle connaît pas très bien l'Afrique, moi j'ai grandi, enfin... Donc il y avait un... Voilà. Quelque chose qui était un peu fou, parce que ça aurait très bien pu ne pas du tout fonctionner.
Et avec Mathilde Monnier... Là, on a presque plus l'impression d'un phénomène de double, presque. Peut-être parce que vous vous ressemblez physiquement.
Je ne la connaissais pas trop physiquement, mais en
Puis
fait...
Votre travail sur le corps, là, on retrouve...
Elle
ça,
avait vu... elle connaissait Bernardo, avec qui j'avais travaillé pour Beau Travail. Et donc, j'ai été invitée à Montpellier Danse. Et du reste, je vois quelqu'un qui est là, qui a travaillé avec nous à Djibouti. Et donc voilà, on s'est connus comme ça. Et puis, ça a commencé avec une caméra Super 8. Enfin, c'était pas du tout vraiment prévu, quoi. Voilà. Je me suis rendu compte après qu'on se ressemblait. Mmh. Mmh. Un peu après, quoi. Mmh. Je la trouvais tellement, au contraire... Alsacienne, aux yeux bleus. Moi, je me vois pas du tout blonde dans ma tête, quoi. Enfin, je me vois très différente.
Comment tu te vois dans ta tête?
Ouais, pas du tout blonde. Pas du tout. Je me vois.
Tu ne vois pas en danseuse?
Oh, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Oh oui, du reste, j'ai toujours eu une espèce de phobie des blonds. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui est vrai. J'ai toujours peur que les blonds soient plus cruels, plus méchants que les bruns ou les brunes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Béatrice Dalle.
Je propose qu'on passe peut-être presque une deuxième manière de...
Ah oui, parce que là, je babille.
Là, t'as tout dit, là. en passant un premier extrait, donc ça va être le début, en fait, de Nénette et Bonnie, le film qui est sorti en 97. Et puis qu'on réagisse à ce moment-là
oui,
sur les...
avec Jean-Paul Fringe, oui. Alors là, on s'éjecte, parce que sinon, ouais. On est dans l'écran.
cet extrait, il y avait peut-être 10 secondes en plus où on voyait le...
Il prend un fusil.
Voilà, il prend un fusil, il tire sur les chats. Évidemment, c'est...
Il vient de chier chez lui.
Donc, moi, ce qui m'intéressait dans ce début de film, comme ça, c'est vraiment les toutes premières minutes. Hein, enfin, vous avez vu le générique. C'est comment on présente des personnages. Il y a quelque chose de très direct, très frontal, sans manière. Ils sont là tout de suite et ils existent immédiatement comme ça, sans justement besoin de scène de présentation, entre guillemets, comme on dit, dans un scénario ou dans une pièce de théâtre classique.
Ouais, c'était comme ça. Moi, j'aimais ça, quoi. J'ai toujours aimé ça, du reste, et je pense que c'est vachement important de bien se présenter, quoi. Comme de dire, voilà, je suis là, et que le spectateur juge sur pièce, et pas trop d'expliquer pourquoi on est comme ci, comme ça. Moi, j'aime aussi les personnages, on parlait du livre que tu as écrit sur Jean-Luc Godard, j'aime que les personnages apparaissent tout de suite magnifiquement et tout de suite là. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, quoi. Après, je dirais que aussi, ayant travaillé toutes ces années avec Jean-Paul Fargeau à Marseille, j'ai eu le sentiment que on était déjà dans cette histoire depuis un moment, quoi, et que on n'allait pas faire un prologue ou je ne sais quoi. Il fallait rentrer dedans tout de suite, quoi. Puis ces deux jeunes gens, enfin Grégoire et Alice, j'avais travaillé avec eux pour Arte, la collection. Je venais de tourner avec eux, en fait.
US Go, moi.
Voilà. Donc, Moi, je les connaissais déjà. Donc, je ne me voyais pas faire semblant de les présenter, au fond. Et du reste, dans US Go Home, Grégoire se présentait aussi d'une manière assez brutale aux spectateurs. Parce que j'aime bien penser que un acteur ou une actrice sont tellement bien, je les trouve tellement bien, que je les propose en pensant d'emblée que les spectateurs éventuels du film vont penser comme moi. Que, par exemple, Alice Souris, je ne peux pas regarder ces images sans penser qu'elle est sublimement belle. Elle reste un émerveillement. Et Grégoire, tout jeune homme, là, avec son accent de Marseille, un peu bidon, me plaît. Donc, c'est ça qui est important. Après, expliquer, comme ci, comme ça, voilà.
Ce qui est beau aussi dans sa confession, hein, parce que c'est une confession, c'est que c'est... Bon, c'est à la fois éminemment, je dirais, fantasmatique et populaire, on pourrait dire, authentiquement. Et en même temps, ça reprend une sorte de canevas de la confession, je dirais, presque littéraire. Il y a des mots comme ça qui viennent d'autrefois aussi dans sa manière d'écrire et de dire cela.
Eh bien, oui, c'est-à-dire... En fait, Jean-Paul, on a écrit à Marseille et on a écrit en prenant comme territoire sa rue, une maison qui avait l'air inhabitée au bout de sa rue. Il y avait à l'autre bout une place, la place des États-Unis, où il y avait une boulangère très gironde. Et comme c'était place des États-Unis, on se disait, bon, un Américain serait le bienvenu dans l'affaire. Mais c'est vraiment parti comme ça. Et simplement avec Jean-Paul... Ça nous plaisait tellement que on avait l'impression que tout était là déjà, qu'il y avait le camion pizza, on le connaissait aussi. Donc, Jean-Paul, un jour, avant que j'arrive, a écrit la fin, parce qu'on connaissait la fin. Et c'était ce garçon assis sur les roches blanches à Marseille. En fait, c'est pas la fin du film, mais c'était la fin qu'il avait écrit, où ce garçon parlait à la première personne. Il disait, je m'assois sur les roches blanches et je tiens le marmot, je sais plus quoi. Et, ah, merde, il m'a pissé dessus. Enfin, c'était comme un langage intérieur. Je lis ça. Et du coup, j'ai dit à Jean-Paul, c'est marrant, j'ai l'impression que il faudrait que ça commence un petit peu avec des mots qui sont un peu trop littéraires s'il parlait à ses copains.
Un peu solennel,
qui soit une déclaration et un peu bidon aussi. Et que ça serait bien que ça commence comme ça. Après, on verra comment ça finira. On savait qu'il allait prendre le bébé à l'hôpital. Sur les roches blanches ou pas, ça n'avait pas d'importance, quoi. Mais ça avait donné le ton. Jean-Paul avait trouvé le ton tout de suite et ça n'a pas quitté le film.
Il y a une autre chose qu'on voit dans cet extrait, c'est la sorte de circulation comme ça dans la voiture. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de virtuosité. C'est très simple et en même temps c'est très efficace. Il y a une forme de virtuosité technique parfois dans ton cinéma. On sent que c'est quelque chose, ce défi de filmer, qui est je suis une filmeuse, c'est quelque chose qui marche chez toi, qui est une motivation pour créer, tout simplement.
Non, parce que ce qu'on appelle la virtuosité au cinéma, j'en ai toujours très peur. Alors en fait, là, c'est être avec Agnès à l'arrière d'une Ford Tonus et de faire des loopings autour des piliers d'un échangeur d'autoroute. Mais pourquoi cette scène existe ? Parce que quand je sortais du métro pour aller chez Jean-Paul, on le faisait tous les jours, on passait sous ces piliers. Et sous ces piliers, tous les jours, on voyait les garçons faire ces 8. Et moi, ça m'emballait, quoi. Je me disais, tiens, j'ai essayé. En plus, c'est vachement dur, quoi. Mais je trouvais que c'était... Je voyais que ça leur plaisait énormément, quoi. Et parfois, du reste, ils percutaient la colonne et la voiture. Après, ils la laissaient. Il fallait qu'on vienne la remorquer, tout ça. Mais je ne savais pas très bien. C'était comme un rituel. Et du coup, je me suis dit, un rituel, c'est si on le filme, il faut le filmer comme Jean Rouge, quoi, pas d'une manière spectaculaire, vue d'en haut. Enfin, moi, je suis pas du tout Yann Arthus Bertrand. Donc, il fallait être dans la bagnole avec eux et c'était impressionnant.
En même temps, on sent que c'est très simple, mais que c'est pas facile non plus à faire en termes de cinéma.
Si, c'est assez facile, c'est juste qu'il ne faut pas avoir peur du gars qui conduit, enfin. Non, mais en réalité, oui, c'est quand même des méthodes pratiquement de documentaire, au fond. Et voilà, après... Parce que si on m'avait dit, il faut des fixations bagnoles, comme fixation ceci, fixation cela, et puis ceci, et puis cela, j'aurais dit, non, on coupe la scène. Mais là, pouvoir rentrer dans la voiture, et Agnès... bien calé avec des coussins et tout ça.
Est-ce que c'est une motivation chez toi, non pas la virtuosité, ce terme n'était pas bien choisi, mais plutôt une forme de...
L'engagement.
L'engagement, mais aussi la trouvaille, parce qu'il faut... Il y a un côté, il faut trouver quelque chose. Il y a une scène qu'on veut filmer, il faut trouver, en termes de mise en scène, en termes presque de technique cinématographique, il faut trouver la manière la plus juste, la plus simple, souvent, de filmer ça.
C'est-à-dire, il y a parfois des choses qui arrivent, c'est que dans les moments d'écriture du scénario... Je crois que quelque chose est déjà techniquement déterminé au fond. Sinon, la scène ne serait même pas écrite si j'avais pas pensé que ça serait assez jouissif d'être dans la voiture avec la caméra, Agnès et les deux acteurs. Enfin bref, et que la première façon de voir le personnage interprété par Grégoire Collin, de le voir sourire de plaisir comme ça dans cette espèce de course inutile, je trouvais que c'était... Donc déjà, c'est un peu Voilà. Après, quand le scénario est fini, il me semble que déjà, je sais à peu près dire avec Agnès comment on va le faire, quoi. Hein. Il y a pas, justement, on va pas se casser la tête à trouver des solutions élégantes de montrer tel truc. Il faut que ce soit comme c'est écrit. Le mieux possible pour voir Grégoire, le mieux possible pour comprendre pourquoi il sourit, qu'à la fois ça fait un peu mal à la tête. Je sais pas, j'ai l'impression que plus c'est proche de ce qui se passe au moment de l'écriture du scénario et de ce que l'acteur ou l'actrice va faire, mieux c'est. Je serais horrifiée et paniquée s'il fallait que je trouve quand on dit, en parlant de Jean-Luc Godard, il y a une idée de mise en scène par plan, c'est vrai. Et en même temps, si on le pense, lui, il ne l'a pas pensé comme ça. C'est comme ça qu'il avait envie de le faire. Mais sinon, si on se dit, il faut une idée de mise en scène par plan, ça devient tragique. À mon avis, lui, il avait l'idée de mise en scène par plan. Et quand il n'y a pas d'idée, du reste, il me semble que les scènes sont ratées. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'idée de plan, c'est parce que soit la scène est inexprimable, soit j'ai pas trouvé comment, enfin, soit elle aurait pas dû être écrite comme ça, il aurait fallu l'exprimer autrement, enfin, je sais pas, mais l'idée du plan, pour moi, c'est un peu problématique, quoi, je crois.
Dans un film, on prend Nénette et Bonnie, il y a beaucoup de plans que tu regrettes ensuite, ou que tu te dis, là, je suis passé à côté.
En général, quand il y a trop de... Enfin, c'est-à-dire un bon... Au montage, ça nettoie quand même. Hein. En plus, ce film a été monté par Yann Dedeck et c'était la première fois que je travaillais avec lui. C'est quand même un monteur exceptionnel. Donc, on ne montait pas encore avec la vide. Hein. Et c'est agréable de se séparer des plans ratés. C'est pas du tout un regret, au contraire, c'est tellement... Ça soulage énormément. Et en plus, Yann m'avait dit tout de suite, tu sais, comme dit Truffaut, on a 20 minutes, au bout de 20 minutes, faut vraiment commencer à faire du sérieux, quoi, pour que ça accroche, mais on a 20 minutes de roue libre, quoi. Donc j'ai instantanément appliqué ça à la lettre. Parce que j'adore que quelqu'un me... Je trouve que c'est génial, justement, dans le cinéma, ce qu'on se dit, même si c'est pas vrai. Oh bah t'as 20 minutes, après il faut vraiment passer aux choses sérieuses. En fait, c'est pas vrai, on pourrait commencer le film tout de suite à la première minute. Mais de savoir que Truffaut a dit qu'on avait 20 minutes où on pouvait faire n'importe quoi, c'est pas très grave. Oui, donc le spectateur vous donne 20 minutes, ouais, hein, c'est ça. Alors, c'est comme des phrases, des petits proverbes. Même si c'est pas tout à fait vrai, puisque Yann Dedel l'a dit, bon, ça va. Mais il n'y a pas de regret, alors, je crois. Dans un film, ça soulage tellement de... Le regret, c'est plutôt de pas d'avoir beaucoup aimé une séquence, aimé la tournée, aimé la montée. Et ça m'est arrivé dans White Metal, c'est vraiment un regret terrible. Et de pas l'avoir montée parce que personne ne la comprenait. J'avais essayé de faire un flash forward, c'est-à-dire... Un bond en avant, comme Mao. Et
oui, c'est pas
personne ne comprenait. Moi, je comprenais très très bien.
C'est rarement compris, les grands bonds en avant.
Oui, mais moi, je trouvais ça très simple à comprendre. Et j'ai testé tout le monde, même Les Tinder 6 ne comprenaient pas. Donc là, quand Stuart m'a dit « je ne comprends pas, je crois que tu dois renoncer au flash-forward », je me suis dit « même si Stuart me le dit, donc vraiment ». Mais je la regrette toujours, je pense que j'ai eu tort. J'ai eu tort. Et tant pis, si ça n'avait pas été compris, ça aurait été dans le film.
On va voir un deuxième extrait, un extrait de Beau Travail. On peut lancer.
Je ne sais pas qui a dit bravo, mais je rigolais en regardant parce que je disais vraiment, c'est le... C'est tout ce qui est impossible dans un film qui fait qu'un film se fait comme ça. Parce que, franchement, au départ, je crois que c'était... Je n'aurais jamais imaginé... C'est ça qui, par rapport à comment on fait un film... Enfin, je ne sais pas, peut-être que tu voulais poser une question.
Non, mais comment on fait un film, c'est montrer les légionnaires repassés, justement.
Mais c'est-à-dire, il y avait une espèce de il y avait plusieurs. Il y a plusieurs trucs à résoudre dans une équation. Hein. Donc, il y avait la proposition d'Arte de faire un film sur. Enfin, de Pierre Chevalier. La notion d'être étranger. Et il avait dit, si possible, pas de médecin sans frontières et pas de journaliste. Et donc, j'ai choisi la Légion étrangère. Bon. Légion étrangère, moi je connaissais Djibouti, donc c'était déjà un début. Et j'ai compté et j'ai convaincu Arte en leur disant que, de toute façon, la Légion, j'avais eu l'affirmation, enfin, j'avais été au ministère des Armées, on allait nous aider. Donc tout ce qui était matériel militaire, campement militaire, on aurait tout, hein, y compris même... des véhicules. Et... En fait, on n'a pas eu du tout d'accord de la Légion, même un gros refus, et même, si possible, une interdiction de venir tourner à Djibouti, et même des menaces de se faire casser la figure. Donc finalement, c'est parce que le gouvernement djiboutien m'a donné l'autorisation de venir tourner, mais avec rien. Donc, on a teint des t-shirts en kaki, on a loué enfin, les godasses et tout ça. Et, même le drapeau, il a fallu qu'on le couse. Enfin, on n'avait rien de rien. Et finalement, j'étais tellement énervée et j'ai dit à Pierre, mais c'est pas grave, on va se démerder. Et même s'il le faut, on finira dans une chambre d'hôtel. Parce que c'était... tellement insupportable que tout soit impossible. Et donc, il fallait que tout devienne possible. Alors, le maximum, c'était 15 hommes, Bruno Forestier, enfin, Michel Subor compris, plus une petite équipe. Et voilà. Alors, je me suis dit, bon, pour une armée, ben, c'est une lessive. Parce qu'au moins, des trucs qui sèchent. Et puis, comme j'étais très documentée sur la Légion, le binôme, il y a toujours l'un qui apprend à l'autre, alors, à parler français, bon, les trois plis dans la chemise, enfin, moi, j'avais une super documentation, je me suis dit, je vais me servir de tout ça, puisque l'essentiel, on l'a pas, on va servir de ça. Et avec Jean-Paul, quand on a travaillé sur ce « ça », j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de mieux dans la Légion, au fond. Et que c'était beaucoup mieux comme ça. Et ça m'a exaltée de me dire que on allait être beaucoup mieux, plus à l'aise. Et en fait, on a tourné vite à Djibouti. On n'avait pas de véhicule de cinéma, donc on voyageait dans des cars locaux. Et je crois que ça a été un des tournages les plus extraordinaires parce qu'on était dans un endroit magnifique, mais on était refusé partout. Quoi. Je ne sais pas, il y avait quelque chose d'exaltant. Et qu'on faisait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire, par exemple, pas de projecteur, pas de groupe électrogène, donc les scènes de nuit, c'était avec des phares de voiture, etc., etc. Y compris tourner dans Djibouti en uniforme, sans autorisation de porter l'uniforme de la Légion, c'était bien aussi. Mais je crois que, d'une certaine manière, quand après on m'a dit « Mais comment on peut penser un film comme Beau Travail ?» Je dirais « Mais finalement, c'est peut-être ce qui a été le plus facile. » C'est les refus qui ont cristallisé ce qui restait. Voilà. Et le début, là, la procession avec les garçons à l'aube qui mettent un des leurs sur eux. C'est parce que comme on s'était quand même inspiré de Billy Budd d'Herman Melville, cette scène, cette procession à l'aube, c'est l'avant-propos d'Herman Melville avant qu'il raconte l'histoire de Billy Budd, marin. Il se souvient, il est vieux quand il écrit Billy Budd, puisque c'est son dernier livre, il se souvient d'un moment extraordinaire quand il était encore marin à Liverpool, d'avoir vu des marins ivres à l'aube prendre un des leurs, très beau, noir, torse nu, qui avait un foulard rouge autour du cou. Et Herman Melville décrit ça comme quelque chose qu'il ne verra plus jamais. Et c'est pour ça que j'ai choisi Billy Budd aussi avec Jean-Paul, parce que comme c'est l'histoire d'un légionnaire qui est viré de la Légion, c'était un peu pareil pour Herman Melville. Il n'était plus dans la marine, quoi. Et il raconte une histoire de marin. Donc, il y avait ce regret, ce qui donnait possiblement la forme, ça autorisait le flashback, en vrac un peu. Et puis, quand on tournait Nénette et Bonnie à Marseille, j'habitais dans un hôtel près du Vieux-Port, et il y avait un bistrot où à Marseille, il y a un hôpital pour légionnaires blessés ou dépressifs. Et entre deux missions, un peu fatiguée, j'avais rencontré l'équipe quand on faisait des nuits, qu'on allait boire un coup à 6 heures du matin avant de rentrer se dormir. On rencontrait des légionnaires qui nous parlaient. Et je voyais que tous, y compris un qui avait perdu sa jambe, aucun ne s'en remettait, quoi. Ils étaient dans un espèce de flashback continuel de cette belle vie, alors que c'est une vie de bagnard, mais tellement protectrice, au fond, comme un matelot de la marine anglaise pendant les guerres napoléoniennes. C'est-à-dire, c'est une souffrance, c'est-à-dire physiquement, c'est extrêmement dur, et du coup, c'est dur, mais ensemble, en groupe, et du coup, ça devient impossible d'être seul après, quoi.
Il y a Subor aussi, Michel Subor, qui porte donc le nom même qu'il avait déjà dans
Bruno
Le Petit Soldat,
ouais,
de Godard, Bruno Forestier, et qui, on a l'impression qu'il est resté d'une certaine manière un petit soldat d'un film à l'autre.
Bah, pour moi, c'était ça le rêve, c'était de travailler avec le Michel Subor qui s'était enfui du film, parce que la fin du Petit Soldat, c'est une fuite. Et je réfléchissais, qu'est-ce que devient Bruno Forestier, quoi, disons, un homme qui a déserté l'armée française, il ne peut plus trop revenir en France, qui assassine quelqu'un au bord du lac Léman, je ne vois pas très bien. Et je me disais, ben voilà, la Légion, c'est fait pour un type comme ça. Et je me suis dit, voilà, enfin, le film où peut-être ça vaudrait la peine, même si beaucoup d'années ont passé, de retrouver ce Michel Subor-là, quoi. Que moi, je trouve que c'est un des personnages masculins que j'ai le plus aimer quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a plus d'idéal, qui a l'impression qu'il n'est plus mu par rien et qui est ému. Enfin, je sais pas, c'est... Ah, c'est un personnage... Bruno Forestier, c'est vraiment un des personnages du cinéma français que j'aime le plus.
On va finir sur un dernier extrait qui est « Trouble Every Day », une scène un peu dure, mais tu vas nous expliquer ensuite, pour finir, comment est-ce qu'on filme, comment on filme une scène comme ça. Donc le troisième extrait, c'est-à-dire que le quatrième en fait, c'est le troisième plutôt, excusez-moi. Je suis pas très clair. C'est pour la cabine. C'est le troisième, c'est ça. Mais on va pas passer le quatrième parce que sinon on va être un peu trop long. Commençons par la musique justement, même si c'est pas forcément le plus évident sur cette séquence, mais il me semble que on l'a d'ailleurs entendu sur les autres séquences, qu'il y a un travail avec la musique, avec Kinderstick, qui est tout à fait étonnant et particulier, et qui vraiment est au cœur là, de ce qu'on pourrait appeler le processus de création.
C'est-à-dire que ça, c'est vrai, enfin, je ne sais pas si c'est le processus de création, mais il y a quelque chose qui n'est possible que... en étant totalement innocent et confiant, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de l'idée du scénario à Stuart, il l'a comprise. Il m'a pas dit « c'est un film gore ou quoi ?» Non, non, il a compris que la passion dévorante, c'était quelque chose qui lui parlait.
C'est littéral.
Voilà, que c'était une maladie presque. Que là, il y avait même ce vieux mot français, la dévoration, quoi. Bon, que... Quand on a travaillé avec Jean-Paul Fargeau sur le scénario, on était naïfs, quoi, enfin, ou plutôt frais, enfin, je ne sais pas comment dire, innocents. Moi, je me suis vraiment posé la question, comment on peut raconter les histoires de vampires, de ghouls et tout ça, comment simplement une femme peut attirer un homme et le massacrer, quoi. Puisque c'est pas la force, c'est autre chose, donc se met en route un processus presque primitif de comprendre ce qu'on va raconter sans se dire mais c'est pas possible. Non, je veux dire, on est resté vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Pour moi, quand on a écrit la phrase que on voyait la peau de ce jeune homme rosir et qu'on la voyait comme un paysage, et on a écrit, je crois, des vallons avec des herbes jaunes, enfin on a écrit vraiment, on a décrit un paysage, c'est parce que je voulais être sûre qu'on allait le filmer. Je me disais, si je dis on voit le torse du jeune homme, alors on va filmer un torse de jeune homme tout d'un coup, et du coup il a fallu qu'on filme un paysage, quoi. Et c'est important quand même l'écriture, enfin l'idée, ce qu'on décide au moment de l'écriture, parce que sinon on ne peut pas le filmer. Si on se dit on va filmer une scène gore, ben déjà moi j'ai plus envie de la filmer, et je pense que la musique d'emblée, Stuart, avant même qu'on commence, vraiment avait écrit la chanson, donc je savais que tout ce qu'on avait mis en place dans le scénario avec Jean-Paul sur l'idée d'une passion dévorante et l'idée qu'un homme puisse avoir peur du coup, sachant qu'il est lui frappé par cette passion, allait peut-être blesser une autre femme, ça, il fallait y croire. Et Stuart a permis d'y croire tout de suite. Donc, il avait déjà écrit une chanson qui s'appelle Seeds, les algues. Et en fait, c'est un homme qui regarde une femme prendre son bain et il voit des algues qui bougent. Donc je savais que déjà il y avait quelque chose qu'il n'allait pas tomber en arrière en disant quoi, tu fais un film de vampire. Il allait tout de suite comprendre mot à mot, quoi. Et du coup, pour ça, la musique, pour moi, elle n'est pas décorative. Elle est dedans, comme Béatrice et Nicolas Duvauchel sont dedans. Ça a été très vite tourné, cette scène, quoi. Je veux dire, c'était comme simple. Mmh. Parce que... Oui, en fait, parce qu'on y a cru. Il a fallu rajouter un peu le sang et tout ça, mais toute la partie derrière la porte et tout ça, c'était... Bon, d'abord, c'est des acteurs aussi qui comprennent très très bien les scénarios, que ce soit Nicolas ou Béatrice. Donc, ça va sans le dire. Il n'y a qu'à tourner, quoi. Puis c'est... Étonnant même de voir à quel point, si on met en place avec des planches le dispositif du désir, au fond, d'une manière très formelle, enfin, avec des planches clouées, il y a un décorateur qui l'a fait, tout ça. Comme tout d'un coup, ça marche. C'est-à-dire que on le ressent extrêmement, quoi. Pas seulement les acteurs. C'est facile à filmer aussi parce que c'est exactement comme ça que ça marche. Enfin, je crois.
Ce qui est aussi, je trouve, très, très beau dans la séquence, c'est ce moment au café avec Vincent Gallo. On sent qu'il est presque à distance, comme ça, comme habité, hanté par quelque chose qui est en train de se passer. Et en même temps, c'est très simple. Une scène absolument quotidienne dans un café comme ça, mais on sent qu'il est perturbé aussi.
Oui, alors disons que sur le papier on peut l'écrire qui prend un café et qu'il est perturbé. Après, dans un film, il faut y croire, parce qu'on ne peut pas le dire. Mmh. Donc il faut que... Et puis, c'est du montage. Mmh. Alors que dans un scénario, on peut l'écrire, mais au cinéma, c'est du montage. Et c'est vrai que quand on a tourné ce plan de Vincent dans le café, on avait déjà tourné l'autre scène. Mais qu'importe, même si on ne l'avait pas tourné, c'est difficile. Il faut avoir confiance qu'il ne se passe strictement rien. Pourquoi tourner ce plan-là ? Plan de travail, on est toujours un peu en retard. Alors pourquoi ce plan-là et pas un autre ? Pourquoi le garder, ce plan-là ? Mais oui, il est bien, quoi. Enfin, il est bien. Il sera bien dans le montage. Il sera à sa place. Mais il est bien aussi parce qu'il est inutile, au fond, apparemment. Il est mieux qu'un gars dans un lit qui se prend la tête et qui a une migraine horrible et qui se dit, mon Dieu...
Qui serait secoué de spasmes.
Voilà.
Voilà. On n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être que vous avez quelques questions quand même pour Claire Denis. Là-bas.
Bonjour, Claire. Bonjour. C'est moi qui dis bravo tout à l'heure parce qu'en fait, en voyant cet extrait, j'ai vu de l'art contemporain. Et je me suis dit que c'était très fort d'arriver dans une fiction à donner des moments comme ça de pure abstraction poétique, sans doute parce que sorti de leur contexte. Mais néanmoins, voilà, c'était pas le cas des autres films de mon point de vue à moi, mais de celui-là en particulier. Et je trouvais que c'était très fort. Donc je voulais poser la question, est-ce que effectivement l'art contemporain joue un rôle important dans ta perception, dans la perception de ton cinéma?
Franchement, je dois dire non, parce que je le connais. Non, mais je vais dire non, pas pour refuser cette. Je pense que parfois, sans le savoir, on rejoint quelque chose. Il y a pas très longtemps, j'étais en Amazonie et j'ai vu qu'il y avait des totems où moi j'ai vu un sèche-linge avec des torchons et on m'a expliqué que c'était un totem. Mais moi, je voyais une lessive qui séchait, vous voyez. Et on m'a dit que c'était un truc pour les morts et tout ça, en pleine forêt. Moi, je trouvais tellement naturel qu'une dame ait tendu son linge parce qu'il y avait un petit rayon de soleil. Donc, je me suis approchée, parce que je trouvais ça très beau. Et ben, c'était... Non, c'était un totem et c'était... Et évidemment, comme je ne suis pas anthropologue, je ne le savais pas. Mais vous voyez, c'est pareil, quoi, un petit peu. Parce que sinon, ça devient un peu compliqué de faire référence à des références. Et heureusement, par exemple, Bernardo Montet ou Mathilde Monnier, ils ont trouvé que je faisais des films dansants, mais moi, j'ai jamais pensé chorégraphier des films. Et je dis heureusement, quoi. Mais vous comprenez, c'est pas un nom... Je m'en tape de l'art contemporain, mais je le connais pas très bien. Parfois, il y a des choses que j'aime, parfois, il y a des choses que j'aime pas. Je connais un peu mieux la musique ou la photo. Et puis, parfois, dans contemporain, art contemporain, c'est comme si ça me rebutait un peu, quoi. J'avais l'impression... c'est comme quand on dit danse contemporaine. Quand je vais voir Mathilde, on me dit la danse contemporaine. Ah ouais, la danse contemporaine, tu sais, ils font rien, tout ça. J'ai toujours un peu peur de ces trucs-là, quoi.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voulais revenir, moi, à la dernière scène qui est relativement choquante pour moi. Je ne connais pas du tout votre filmographie. Je suis venue avec ma mère et une amie qui, visiblement, connaissent bien vos films. Et donc, ça m'intéresse parce que le thème de la dévoration est un thème assez classique. La femme qui dévore l'homme, l'homme qui dévore la femme, ça se voit également dans la peinture. Je pense à Goya notamment. Mais je voulais savoir pourquoi vous aviez préféré l'aborder sous cet angle-là, plutôt que l'angle plutôt poétique, métaphorique. Ici, c'est plutôt une scène un peu de cannibalisme, disons-le. Et pourquoi l'avoir fait comme ça? Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est de susciter une réaction, justement, peut-être de la part du spectateur forte, ou est-ce que peut-être est-ce une façon de se dire voilà, personne l'a filmé comme ça auparavant et ce serait peut-être une manière originale de le faire?
Ah non, pas du tout. Non, parce que le résultat d'une scène comme ça, c'est quand même le consentement des deux acteurs. Comment on va arriver à le faire et que ça dure, enfin que ce soit simple en même temps comme dispositif. Donc le résultat final, il n'est pas pour susciter la stupeur, l'étonnement ou la première fois. Parce qu'à la limite, il faudrait que ce soit encore plus violent, peut-être même que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez cité Goya, par exemple. Mais Goya, du reste, c'est pas des femmes qui mangent l'ogre, hein, c'est des humains. Hein. C'est déjà métaphorique, la peinture de Goya, même si elle est ancrée dans sa haine des guerres napoléoniennes, c'est quand même métaphorique. Donc, ce qui a fait qu'on s'est aventuré dans cette histoire, c'est que je me disais, bon, bah, si ça existe, le genre gore, je vais peut-être essayer de faire comme je le ressens, moi, et pas un homme pâle qui vient mordre le cou d'une jeune fille, ou vous voyez, quelque chose qui soit plus de la dévoration, plus
au sens
en propre. Pensant à Goya, pareil. Vraiment, oui.
Mais oui, au sens propre du terme, là, pour le coup.
Oui, bien sûr.
Mais c'est aussi une scène d'amour, je veux dire ça.
Ah, bien sûr, oui, oui.
C'est quand même.
Ah oui, non, mais.
La scène dure 6 minutes, et ce qui est très beau, c'est que pendant 5 minutes, c'est une vraie scène d'amour,
ah,
et
oui,
que ça bascule
sûr.
Tout d'un coup.
Oui. Mais parce qu'il faut. Il faut. Ça serait pas possible que quelqu'un saute sur quelqu'un et le morde. Non, mais je veux dire, il l'enverrait balader, quoi.
Donc on est dans.
Surtout
une...
Nicolas, il est un peu baraqué, tout ça, mais. Non, il faut. Un abandon. Il faut un abandon. Et il faut que cet abandon c'est comme une proie qui est piquée par le venin qui va petit à petit l'engourdir, quoi. Et donc il va se laisser faire. Mais je crois que c'était ça, cette scène d'amour-là qu'on voulait faire. Où on sent que mais ça aurait pu exister aussi d'un homme. Enfin, le sexe n'était pas important. C'est juste que j'avais choisi Béatrice Dalle pour faire cette femme-là.
D'ailleurs, il y a la scène inverse où Vincent Gallo dévore.
Oui, mais du reste, elle n'est pas tout à fait pareille.
Non, elle n'est pas fait pareille.
Et bizarrement, je m'en suis rendu compte en filmant. Parce que du coup, quand Vincent Gallo s'attaque à la jeune femme de chambre de l'hôtel, bah, il y a. Pour moi, c'était aussi un rapport de classe, c'est-à-dire que finalement, il avait le droit de le faire, quand même, parce que elle n'est qu'une petite bonne de l'hôtel, et ça ressemblait du coup à un viol. Alors que dans l'autre sens, c'est vraiment de la dévoration. Et j'étais surprise en filmant avec Vincent l'autre scène de voir comme on avait plus l'impression d'assister à un viol. À quel point nos esprits étaient presque habitués à voir l'homme prédateur qui fait mal.
Donc vous vouliez peut-être inverser les rôles dans cette scène-là.
Oh non, non, non. Moi, je ne voulais pas inverser les rôles. Je voulais Béatrice dans ce rôle-là, c'est tout. Non. Moi, inverser les rôles, ça me... Non.
Mais c'est une scène un petit peu surréaliste, parce qu'on sait que ça ne se passera pas vraiment comme ça dans le réel. Donc il y a une dimension
ah ben, allez
surréaliste.
Allez savoir. Moi, je ne suis pas sûre. Hein.
D'accord.
Moi, j'y crois, en tout cas, un peu.
On y laisse quelques plumes, alors.
Hein ?
On y laisse quelques plumes.
Bah, on en meurt. Non, mais il meurt. Hein.
Et il souffre.
Et il jouit aussi en même temps. Enfin, non, je ne sais pas. C'est... Non, mais on ne va pas se titiller là-dessus, quoi.
Ça fait penser aussi à ce que disait Hitchcock à Truffaut, d'ailleurs, dans le livre Hitchcock-Truffaut, que le plus excitant, c'est de filmer une scène d'amour comme une scène de meurtre. Enfin, il y a quelque chose,
oui.
Ou l'inverse, d'ailleurs.
Mais je ne suis pas... D'abord, je ne me suis pas prise pour Hitchcock, et puis, quand même, il y a chez Hitchcock une espèce de plastique implacable, comme... Déjà, il y a une forme de morbidité du fait, et dans le sens où en italien, morbidité, ça veut dire aussi doux. Il y a ces deux choses, alors que moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus tâtonnante, quoi, et que je suis quand même pas si sûre. Je pense que, franchement, Hitchcock, il a... Puis peut-être qu'il était obligé aussi d'être sûr. Mais c'est... Il y a pas longtemps, j'ai revu North by Northwest, parce que j'aime vraiment énormément ce film. Et quand même, c'est tellement vivant, ça donne quand même vraiment envie de faire des films, quand même. Mmh. Parce que c'est des mécanismes qui fonctionne tout le temps. Et moi, par contre, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui. D'abord, premièrement, je ne suis pas Hitchcock, mais aussi c'est plus difficile aujourd'hui parce que l'industrie du cinéma est plus floue. Donc, se dire que le danger va venir d'un avion qui met de l'insecticide sur des moissons, sur du maïs, et que la bizarrerie, c'est qu'elle le fait en plein hiver alors que les maïs sont secs et qu'ils n'ont pas besoin d'insecticides, il faut quand même ce champ-là de cinéma, quoi. C'est improbable. Plus Cary Grant, plus La Limousine Noire. Enfin, il y a quand même quelque chose qui a à voir aussi avec une industrie du cinéma avec laquelle on peut jouer à faire des jouets. C'est ça, quoi, quand même. Nous, je crois, dans le cinéma aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'est plus difficile de se servir de l'industrie du cinéma pour faire des Legos, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais je pense que ça joue un grand rôle, l'industrie du cinéma, dans...
Ce qui entoure le film, quoi.
Oui.
Et d'une certaine manière, ce qui entoure ou ce qui est ton industrie du cinéma à toi, c'est plutôt le genre. C'est ce genre-là du cinéma d'horreur, du cinéma gore, il existe. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Et puis, je reviens presque au début, à l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a? Comment on le fait? Peut-être dans Travel Every Day, je me suis dit que ce qui serait le plus beau et le moins cher, c'était des litres et des litres de faux sang, quoi. Et c'est vrai que c'est beau et que... Mais on est quand même... Je crois que le cinéma, il existe avec son économie. Et quand je parle de l'industrie du cinéma hollywoodienne, c'est pas pour déformer l'art d'Hitchcock, c'est pour dire qu'il a, joué avec les armes d'Hollywood et il peut avoir tout un ciel, des oiseaux, un avion, comme si c'était des petits jouets. Donc, à une autre échelle, il faut trouver ces jouets, quoi. Comme des chaussettes qui sèchent, des caleçons, des t-shirts qu'on a teints en kaki dans un lavabo. Vous voyez, c'est la même chose, mais c'est à l'échelle d'une économie. Alors après, le talent, c'est autre chose. Je ne veux pas là rentrer dans ce débat-là parce que Hitchcock n'est pas comparable.
Bien, écoutez, nous allons terminer cette séance. Merci beaucoup, Claire Denis. Merci, Antoine Debecq. Je propose quand même que nous nous quittions après avoir projeté le quatrième extrait, White Material, même s'il n'y a pas de commentaire après.
D'accord.
Merci beaucoup.
Comme une sorte de générique de fin.